Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Le procès de Franz Kafka. À première vue, Le procès est une critique du système judiciaire. Cette machine anonyme a broyé les individus. L'ensemble du système, du juge à l'avocat, en passant par les policiers, est considéré comme gangrené par la corruption et la bureaucratie. Mais une analyse plus fine relève d'autres thèmes récurrents chez Kafka. L'absurdité, l'inhumanité du monde moderne, le totalitarisme, la subjectivité aliénée. Dès l'incipit, le récit est illogique, et cet illogisme est redoublé par les événements qui arrivent à Joseph K. L'absurde est donc total dans le procès. L'absurde, chez Kafka, semble désigner un vide rationnel dans le monde, dans la mesure où tout a été englouti par l'hyper-rationalisation. Les écrits de Kafka reflète les sentiments de la société du début du XXe siècle. Ces personnages évoluent dans un monde où les rapports et les relations qui les régissent leur sont incompréhensibles, où ils sont livrés, impuissants, à des forces inconnues, comme dans un cauchemar. La vie est un mystère irrésolu, un labyrinthe dont on ne connaît pas la sortie et ce qui nous y attend. Kafka étudie la psychologie de ses personnages face à des situations extraordinaires dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, et leurs relations avec leur entourage. Kafka aborde les thèmes de la solitude, des rêves, des peurs et des complexes. Le personnage est perdu, déboussolé. Il ne saisit pas tout ce qui l'entoure. L'atmosphère particulière des romans et nouvelles de Kafka a donné naissance à un adjectif, kafkaïen, qui renvoie à quelque chose d'absurde et d'illogique, de confus et d'incompréhensible. Mais de l'ensemble de l'œuvre de Kafka, il ressort aussi une réflexion à la fois critique et éclairante sur la famille, la société et la lutte que l'individu mène contre lui-même s'il veut y trouver sa place. Kafka est né le 3 juillet 1883 dans un quartier juif de la ville de Prague, alors capitale de la province de Bohême, qui fait partie de l'Empire austro-hongrois. Son nom de famille, Kafka, veut dire « corbeau » en tchèque. Franz Kafka a deux frères, morts en bas âge, et trois sœurs plus jeunes, qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, sont déportées au ghetto de Łódź, en Pologne, probablement assassiné au cours de l'automne 1942. Kafka a une enfance solitaire. À 14 ans, en 1897, il est témoin des destructions occasionnées par la tempête de décembre, au cours de laquelle la rivalité permanente entre Allemands et Tchèques à Prague se meut en émeute et aboutit au pillage et à l'incendie des synagogues et commerces juifs. En 1901, il fait la connaissance du poète Max Brod, qui sera son ami le plus influent et publiera la plus grande partie de son œuvre après sa mort. En 1906, il est reçu docteur en droit et il entre au service de l'institution d'assurance pour les accidents des travailleurs du royaume de Bohême, où il travaille jusqu'à sa retraite prématurée en 1922. Entre 1909 et 1912, il fréquente les cercles anarchistes de Prague. À côté de son travail pour la société d'assurance, Kafka continue d'écrire. Il entretient des relations compliquées avec les femmes. En 1912, dans la maison de Max Brod, il rencontre la berlinoise Felice Bauer, 1887-1960, représentante d'une firme de dictaphones. Durant les 5 années qui suivent, une correspondance intense se développe entre Kafka et Felice. Ils se rencontrent de temps à autre, ce qui aboutit deux fois à des fiançailles. Du côté de Kafka, il s'agit surtout d'un amour platonique qu'il entretient principalement par ses lettres et se termine en 1917. En 1919, Kafka se fiance avec Julie Voriszek, 1891-1944, une secrétaire de Prague, mais le père de Franz s'oppose fortement à cette relation. Au début des années 1920, une relation de courte durée mais très intense se développe entre Kafka et la journaliste et écrivaine anarchiste tchèque Milena Jesenka, 1896-1944, qui décédera au camp de Ravensbrück en 1944. En 1923, il part pour quelque temps à Berlin, espérant pouvoir mieux se concentrer sur l'écriture, loin de l'ingérence de sa famille. C'est à cette époque qu'il rencontre Dora Diamant, 1898-1952, une institutrice de maternelle âgée de 25 ans, originaire d'une famille orthodoxe juive polonaise. Dora devient la compagne de Kafka à Berlin et exerce une influence sur son intérêt croissant pour le Talmud et l'hébreu. Mais Kafka souffre de dépression clinique et de phobie sociale, présentant aussi des phénomènes vraisemblablement liés au stress, tels que des migraines, insomnie, constipation, furoncle. Kafka est admis au sanatorium de Kriarlin, près de Vienne, où il meurt à l'âge de 40 ans, le 3 juin 1924, vraisemblablement de malnutrition ainsi que de tuberculose. Dora Diamant à ses côtés. Son corps est ramené à Prague, où il est enterré le 11 juin 1924 dans le nouveau cimetière juif. Avant sa mort, il a chargé par écrit son ami exécuteur testamentaire Max Brod de détruire tous ses manuscrits. Cependant, Max Brod décide de ne pas respecter les dernières volontés de Kafka. Il s'enfuit de Prague, envahi par les nazis, avec une valise contenant les manuscrits de Kafka. C'est l'écrivain Alexandre Vialat, 1901-1971, qui révèle le génie de Franz Kafka au public français. Après avoir découvert le château en 1925, il entreprend de traduire en français le procès, la métamorphose, ainsi que les lettres à Milena. On avait sûrement calomnié Joseph K., car, sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. La cuisinière de sa logeuse, Madame Grubach, qui lui apportait tous les jours son déjeuner à 8 heures, ne se présentant pas ce matin-là. Ce n'était jamais arrivé. Joseph K. attendit encore un instant, regarda du fond de son oreiller la vieille femme qui habitait en face de chez lui et qu'il observait avec cette curiosité surprenante. Puis, affamé, étonné tout à la fois, il sonna la bonne. À ce moment, on frappa à la porte et un homme entra qu'il n'avait encore jamais vu dans la maison. Ce personnage était svelte, mais solidement bâti. Il portait un habit noir et collant, pourvu d'une ceinture et de toutes sortes de pluies, de poches, de boucles et de boutons qui donnaient à ce vêtement une apparence particulièrement pratique, sans qu'on pût cependant bien comprendre à quoi tout cela pouvait servir. « Qui êtes-vous ? » demande Joseph K. en se dressant sur son séant. Mais l'homme passa sur la question, comme s'il était tout naturel qu'on le prît quand il venait, et se contenta de demander de son côté. « Vous avez sonné ? Anna doit me porter le déjeuner !» dit Joseph K., essayant d'abord muettement de découvrir par déduction qui pouvait être ce monsieur. Mais l'autre ne s'attarda pas à se laisser examiner. Il se retourna vers la porte et l'entrouvrit pour dire à quelqu'un qui devait se trouver juste derrière. « Il veut qu'Anna lui apporte le déjeuner. » Un petit rire suivit dans la pièce voisine. À en juger d'après le bruit, il pouvait se faire qu'il y eût là plusieurs personnes. Bien que l'étranger n'eût pu apprendre de ce rire rien qu'il ne sût auparavant, il déclara « C'est impossible » à Joseph K. sur un ton de commandement. « Voilà qui est fort !» répondit Joseph K. en sautant à bas de son lit pour enfiler son pantalon. « Je voudrais bien voir qui sont ces gens de la pièce à côté et comment Madame Grubach m'expliquera qu'elle puisse tolérer qu'on vienne me déranger de la sorte. » L'idée lui vint bien aussitôt qu'il n'eût pas dû parler ainsi à haute voix, car il avait l'air, en le faisant, de reconnaître en quelque sorte un droit de regard à l'étranger. Mais il n'y attacha pas d'importance sur le moment. L'autre l'avait pourtant bien compris, comme il n'aurait justement pas fallu, car il lui dit « N'aimeriez-vous pas mieux rester ici ?»« Je ne veux ni rester ici, ni vous entendre m'adresser la parole, tant que vous ne serez pas présenté. » « Je le faisais dans une bonne intention, » dit l'étranger, et il ouvrit spontanément la porte. La pièce voisine, où Joseph K. entra plus lentement qu'il ne voulait, présentait au premier abord à peu près le même aspect que la veille. C'était le salon de Madame Grubach. Peut-être y avait-il dans cette pièce encombrée de meubles, de dentelles, de porcelaines et de photographies un peu plus d'espace que d'ordinaire. Mais on ne s'en rendait pas compte en entrant, et d'autant moins que la principale modification consistait dans la présence d'un homme assis près de la fenêtre ouverte et armé d'un livre dont il détacha son regard en voyant entrer Joseph K. « Vous aurez dû rester dans votre chambre, » dit Joseph K, quittant des yeux sa nouvelle connaissance pour regarder sur le pas de la porte celui qu'on venait d'appeler Franz et revenir ensuite à l'autre. Par la fenêtre, on voyait la vieille femme qui était restée postée à la sienne, juste en face maintenant, avec une curiosité vraiment sénile, pour ne rien perdre de ce qui allait se passer. « Il faut tout de même, » dit Joseph K, « que Madame Grubach... » Et il fit un mouvement comme pour s'arracher aux deux hommes qui se tenaient pourtant loin de lui et voulut continuer son chemin. « Non, » dit celui qui était près de la fenêtre, en jetant son livre sur une petite table et en se levant. « Vous n'avez pas le droit de sortir. Vous êtes arrêté. » « Ça n'a pas tout l'air, » dit Joseph K. « Et pourquoi donc ? » demanda-t-il ensuite. « Nous ne sommes pas ici pour vous le dire. Retournez dans votre chambre et attendez. La procédure est engagée. Vous apprendrez tout au moment voulu. Je dépasse ma mission en vous parlant si gentiment. » C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.